les interviews de Fréquence Terre, Frédéric Bénaud.
Nous vous faisions découvrir il y a quelques jours sur Fréquence Terre les conclusions de l'enquête d'Isabelle Saporta, résumées dans le livre noir de l'agriculture. Elle vous mettait en garde contre l'utilisation abusive de pesticides et ses impacts sur notre santé. Aujourd'hui, je vous propose de découvrir des conclusions identiques, portées par une étude de Marie-Monique Robin et reprises dans un documentaire diffusé sur Arte, Notre poison quotidien. Là encore, Marie-Monique Robin confirme. La France est le premier pays au monde à développer des cancers. C'est aussi le premier pays européen consommateur de pesticides. Extrait de son intervention sur notre antenne.
On a par exemple en Inde, où je suis allée pour cette nouvelle enquête, 30 fois moins une incidence 30 fois moins élevée de cancer que dans les pays dits développés. C'est très net, quoi. Et ça, c'est les chiffres du cirque. À noter au passage d'ailleurs que le pays qui a le plus de cancers et dans tous les sites, c'est-à-dire tous les organes, etc., c'est la France. Hein. Largement en tête avant les États-Unis, le Canada, l'Allemagne. C'est très impressionnant.
À relier au fait que nous sommes les premiers consommateurs de pesticides dans le monde ?
Ah, écoutez, pas dans le monde, hein, en Europe.
En Europe.
Et les troisièmes dans le monde. Je ne sais pas, c'est une bonne question, parce qu'il faut dire les choses prudemment. Ce qui est sûr, c'est que nous sommes effectivement un grand pays, enfin consommateur. Vous comparez avec l'Allemagne, par exemple, on utilise en Allemagne 30 000 tonnes de pesticides par an, en France 80 000, donc il y a vraiment une très grande différence. Est-ce qu'il y a un lien ? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ces deux chiffres sont vrais. Voilà.
Le deuxième point soulevé par l'enquête de Marie-Monique Robin, c'est cette échelle de valeur que les fabricants et les pouvoirs publics ont validée et qui détermine des doses acceptables pour notre santé. Une dose quotidienne à laquelle les consommateurs ont une totale confiance. C'est bien là le nœud du problème, car pour Marie-Monique Robin, cette dose quotidienne acceptable est tout sauf fiable.
La dose journalière acceptable ou admissible, c'est vraiment le cœur de mon enquête. J'y passe d'ailleurs, dans mon film, évidemment pas mal de temps, mais dans mon bouquin, 4 chapitres, parce que vraiment, j'ai passé 6 mois à comprendre comment ça marchait. Et c'est une boîte noire, c'est-à-dire que quand vous ouvrez la boîte, c'est un puits sans fond. Vous découvrez que finalement, c'est un bricolage fait par, à l'origine, il y a effectivement un Français qui s'appelle René Truot, qui a eu une idée quand même un peu généreuse, on va dire. Il s'est dit, il y a plein de poisons partout, c'est à la fin des années 50, il faut faire quelque chose. Et comme c'était un adepte de Paracelse, un médecin suisse du XVIe siècle, qui a dit la dose, c'est le poison, et s'est dit, on va essayer de trouver une dose pour laquelle il n'y aura pas de problème. Donc la dose journalière acceptable de poison qu'on est censé pouvoir ingérer tous les jours sans tomber malade. Sauf que quand on examine de très près comment ça marche, vous vous rendez compte que les données toxicologiques sont fournies par les fabricants et que ces données sont couvertes par le secret commercial. Donc personne ne peut y avoir accès, sauf les experts des fameuses agences de réglementation, lesquelles les examinent dans le plus grand secret, à huis clos.
C'est très opaque, donc.
Parfois avec des conflits d'intérêts, vous savez, ils sont liés aux mêmes fabricants dont ils sont censés évaluer les produits. Donc un système totalement opaque, notamment pour les perturbateurs endocriniens, ces hormones de synthèse qu'on retrouve partout dans les pesticides, dans les plastiques, dans le bisphénol A ou dans les additifs alimentaires, eh bien, agissent à des doses extrêmement faibles. Parfois, il n'y a pas d'effet à la fameuse DGA, mais il y a des effets à une dose qui est 10 puissance moins 6. Vous voyez, c'est vraiment très, très faible. Et puis, ça ne tient pas compte non plus de ce qu'on appelle l'effet cocktail. C'est-à-dire le fait que, vous savez, quand vous allez en pharmacie, vous avez un médicament et on vous dit, attention, si vous prenez tel autre médicament, il est déconseillé de le prendre parce que vous pouvez...
Il y a des interactions, oui.
Voilà, voilà. Alors ça, c'est absolument inouï de constater qu'on n'a jamais pensé à ça, alors qu'en pharmacie, c'est un principe qu'on connaît depuis tout le temps. Ce que je veux dire par là, c'est que ce système de la réglementation tel qu'il a été conçu et qu'il est appliqué depuis 50 ans, il est là pour protéger les produits, il n'est pas là pour protéger les consommateurs. Pour moi, c'est très clair.
Mais alors, que faut-il faire ? Faut-il descendre dans la rue pour refondre le système ?
C'est une question qu'on me pose tout le temps. Alors, hier, j'étais à Montpellier, avant-hier, j'étais à Lens, je suis à Toulouse, demain, je vais à Montbéliard. Donc, ça va être partout, on me demande qu'est-ce qu'on peut faire. Alors, on peut faire, effectivement, accompagner l'agriculture biologique et consommer biologique autant que faire se peut, etc. Mais il faut harceler nos hommes politiques, il faut descendre dans la rue. Il y a un moment où il faut bouger, parce que sinon, il ne se passera rien. Il faut quand même comprendre que l'enjeu est énorme. Hein. Quand vous savez, par exemple, que les hommes qui sont nés en 1970 ou 1980 ont perdu par rapport à leur grand-père 50% de leurs spermatozoïdes, je veux dire, on est dans l'urgence. Là, hein. Et moi, les scientifiques que j'ai rencontrés aux États-Unis notamment, ils m'ont dit, si on ne bouge pas vite, dans 50 ans, eh bien, le mode de reproduction le plus courant, ça sera in vitro et ça sera le bonheur des laboratoires. Mais vous voyez, c'est ça. Il y a urgence.
Mais alors, est-ce que vous ne pensez pas qu'on manque de leaders pour faire descendre les gens dans la rue? Ils descendront pas spontanément, un petit peu en mauvais ordre. Il faut que tout ça soit rangé, organisé. Apparemment, on peut pas compter sur grand monde aujourd'hui.
En tout cas, les citoyens ont la clé. Ils ont la clé. Et la bonne nouvelle dans toute cette pagaille générale, c'est que quand même, on sait d'où ça vient, cette épidémie de maladie. Hein. Donc, ça veut dire que si on agit, on peut arrêter l'épidémie. Alors, pas pour, il y a des gens comme nous, moi j'ai 50 ans, c'est trop tard, mais bon, on protège les générations futures. Donc, on peut agir. Et il faut, la balle, elle est réellement dans le camp des politiques, elle est dans le camp des citoyens qui peuvent agir. Donc, est-ce qu'il faut un leader? Bon, je ne vais pas répondre à cette question, c'est très difficile, mais j'ose espérer que les gens vont enfin réagir à la mesure de l'enjeu.
La conclusion est donc simple. C'est aux citoyens, à vous, qu'appartient la décision finale. Tout le monde s'accorde à dire que 2012 sera l'occasion de faire parler les urnes et de voter utile. Vous pouvez retrouver cette interview complète de Marie-Monique Robin, préparée par cdurable.info, sur le site de Fréquence Terre, fréquenceterre.com, mais aussi son documentaire « Notre poison quotidien » qui reste consultable dans son intégralité sur le site d'Arte, et puis son livre, du même nom, toujours disponible dans les bonnes librairies, il est sorti aux éditions La Découverte. À la semaine prochaine.